Qui chante les paroles suivantes? Aie confiance, crois en moi, que je puisse veiller sur toi. Fais un somme sans méfiance, je suis là, aie confiance. Il n'y a pas beaucoup d'enfants et d'ados dans la salle, mais c'est un classique. C'est Ka, le serpent dans le livre de la jungle, lorsqu'il hypnotise Mowgli pour l'avaler tout cru. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Genèse chapitre 3. Et nous allons lire ce matin les 6 premiers versets de ce chapitre. Genèse 3, versets 1 à 6. Le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, vraiment, Dieu vous a dit, ne mangez du fruit d'aucun des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Sauf du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas en manger et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Alors le serpent dit à la femme, mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Jusque-là, notre lecture de ce matin, mais nous continuerons dans de prochaines prédications. Nous sommes toujours dans cette série de prédications que j'ai intitulée Dieu nous parle de nos origines. Si vous avez manqué les épisodes précédents, je vous invite à les retrouver sur notre site internet dans la rubrique Prédication. Et précédemment, nous avions vu en Genèse 1 et 2 que le monde créé par Dieu est parfaitement bon à l'origine. Et nous étions restés la dernière fois sur ce beau verset, symbole de l'harmonie heureuse qui régnait alors dans le jardin d'Éden. Chapitre 2, verset 25, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et n'en éprouvaient aucune honte. Avec le chapitre 3, nous passons malheureusement du paradis à l'enfer, si vous me permettez cette expression. C'est le titre de cette prédication. Il est essentiel de bien comprendre Genèse chapitre 3. Pour comprendre comment notre humanité a été contaminée par le péché et par la mort à un moment de notre histoire. Pour comprendre d'où vient ce mal qui a contaminé Adam et Ève il y a quelques milliers d'années et qui empoisonne nos vies aujourd'hui encore, soit parce que nous le subissons, soit parce que nous le commettons, ce mal. Je vois dans ce texte un triple empoisonnement que j'aimerais vous présenter ce matin, et je tâcherai de montrer aussi comment l'œuvre de Jésus-Christ vient comme un triple remède à ce poison. Poison numéro 1, le serpent et son orgueil. Vous voyez ce premier verset que nous avons lu, et ce premier mot, le serpent. D'où sort-il? Qui est-il? Que fait-il là? C'est le premier mot de ce chapitre 3, et en hébreu, la langue originale de ce récit, on met en général en début d'une phrase un mot quand on veut souligner quelque chose d'important. Ce n'est pas que quelque chose d'habituel. En plus, c'est la première fois qu'un animal sort du lot de tous les animaux qui ont été mentionnés jusqu'ici dans le récit de la création. Ce serpent arrive comme ça, tout seul, individuellement. Et vous n'aurez pas manqué de relever que ce serpent parle. Ça n'a d'ailleurs pas l'air de choquer outre mesure Ève. On se croirait ici dans le livre de la jungle. Sauf que nous ne sommes pas dans un dessin animé de Walt Disney. Qu'est-ce que c'est cette histoire de serpent qui parle? Notez qu'il est présenté comme une créature. C'est un des animaux des champs que Dieu a créé. Ce serpent ne sort donc pas de nulle part. Il fait partie de la création de Dieu. Ce n'est pas un être qui existe de toute éternité comme Dieu. Ce serpent a donc été créé. On est loin des mythologies ou des philosophies dans lesquelles le bien et le mal s'affrontent ou se complètent comme deux entités nécessaires à l'équilibre du monde. Ce serpent vient tout déséquilibrer. Déjà, il parle. Et ça, c'est nouveau. Jusqu'à présent, parmi les créatures, seul l'homme a pris la parole pour se réjouir de l'arrivée de la femme. Comment parle-t-il, ce serpent? Il parle avec malice. Le serpent était le plus tortueux, malicieux, astucieux, rusé de tous les animaux des champs. En hébreu, le mot que l'on traduit par rusé ou tortueux est très proche du mot nu qu'on avait au chapitre 2, verset 25. L'homme et la femme étaient tous deux nus et n'en avaient pas honte. Comme si l'auteur voulait nous indiquer que ce qui était bon jusqu'à la fin du chapitre 2 va désormais être mal vécu à partir du chapitre 3. Et ça aussi, c'est nouveau, parce que dans les chapitres 1 et 2, il n'y avait aucune trace de ruse. Tout était beau, tout était bon, tout était parfait. Et voilà qu'apparaît un être sournois, pervers, tordu, qui se met sur le devant de la scène, en premier dans la phrase, pour que tout le monde le voie et l'admire. Remarquez au passage que Dieu, qui était jusqu'à présent l'auteur de toutes choses et le sujet du récit, a disparu du récit. Il ne réapparaîtra qu'après la faute de l'homme au verset 9. Ce serpent donc s'impose et prend la première place dans le récit, la place de Dieu. Dans le Proche-Orient ancien, à l'époque où ce texte a été rédigé, la figure, l'image du serpent évoquait les pratiques occultes, la magie, la divination, tout ce que Dieu condamne comme idolâtrie, comme pratique religieuse qui vient justement concurrencer la vraie foi, la vraie confiance dans le Dieu créateur. Ce personnage qui est présenté dans notre texte sous les traits d'un serpent pervers, c'est l'adversaire de Dieu et des hommes par excellence. Le Nouveau Testament l'identifie au diable, à Satan. L'apôtre Jean, dans Apocalypse 12, verset 9, lorsqu'il parle du grand dragon, dit que ce grand dragon, c'est le serpent ancien qu'on appelle le diable et Satan, celui qui égare le monde entier. Vous voyez, il y a ici plus qu'un simple animal, c'est bien un adversaire. Et même l'adversaire avec un grand A, notre adversaire qui fait irruption en Genèse 3 pour s'imposer. Le péché, c'est comme un poison qui nous entraîne peu à peu vers la mort. Et ce poison vient de quelqu'un qui nous a empoisonnés. C'est extrêmement important de comprendre cela. Avant de commettre le péché, Adam et Ève ont été séduits par quelqu'un qui leur voulait du mal. Le mal n'est pas dans l'homme à l'origine. Nous avons été intoxiqués, contaminés par les désirs tordus d'une autre créature. Alors nous avons une responsabilité dans cette contamination, nous le verrons, mais pas celle d'être des créatures mauvaises à la base. Au départ, l'homme a été créé bon, Genèse 1 et 2, mais il s'est laissé empoisonner, Genèse 3. Si nous étions à la fois bons et mauvais dès notre origine, alors le mal ferait partie de l'ordre des choses et du monde, et il n'aurait pas besoin d'être réparé ni combattu. Mais ce n'est pas ce que nous enseigne la parole de Dieu. Quelqu'un, une créature corrompue, nous a inoculé, non pas la Covid-19, mais son orgueil. Le serpent veut être le premier. Il veut être mis en avant. Il ne veut pas se laisser dominer, mais au contraire, il veut, lui, dominer la création comme Dieu. Chaque fois donc que nous imitons cet exemple en nous mettant en avant, moi d'abord, en visant à tout prix la première place dans notre job, par exemple, ou au lycée, ou dans le sport, quand nous cherchons à dominer les autres et à mettre en cause l'autorité de notre Créateur, nous apportons la preuve que notre test au poison de l'orgueil est positif. Et malheureusement, nous sommes tous individuellement contrôlés positifs. C'est ce que dit Paul aux Romains. Tous ont péché, tous sont contaminés et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Et rejeter la faute sur Adam et Ève ne nous rend pas innocents face à la justice de Dieu, puisque nous répétons la même erreur qu'eux. Par contre, il y a un vaccin, un contrepoison. C'est Jésus et son humilité. Jésus est celui qui nous a donné le modèle de l'homme parfait selon Dieu, du nouvel Adam. Par exemple, là où Adam a cédé à la séduction du serpent, Jésus a résisté. Matthieu 4, verset 8. Le diable transporta Jésus encore sur une très haute montagne et là il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit, tout cela je te le donnerai, comme si ça lui appartenait, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Alors Jésus lui dit, va-t'en Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Jésus qui résiste à cette tentation de l'orgueil. C'est Jésus lui-même que l'apôtre Paul nous appelle à imiter dans sa lettre aux Philippiens au chapitre 2. Je lis à partir du verset 4. Que chacun regarde non pas ses propres qualités, ses propres intérêts, mais celles ou ceux des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. Vous voyez, au lieu de venir en dominateur, Jésus est venu en sauveur, en serviteur, pour que nous soyons délivrés du poison de l'orgueil du serpent. La croix est l'antidote à notre prétention de vouloir être comme des dieux. C'est Dieu qui s'est fait homme. Et c'est sur lui, Jésus, lui qui était innocent de tout mal, comme nous l'avons rappelé tout à l'heure, que nos fautes ont été rejetées. Poison numéro 1, donc, le serpent et son orgueil. Poison numéro 2, le serpent et son mensonge. L'apôtre Jean rappelle, dans Apocalypse 12, que j'ai cité tout à l'heure, que le serpent ancien égare le monde entier. Comment s'y est-il pris, et s'y prend-il encore, pour nous égarer? Eh bien, il lui a suffi de dire quelque chose comme « Aie confiance, crois en moi ». Regardons cela de plus près. Je reviens à Genèse 3. D'abord, remarquez à qui le serpent s'adresse. À la femme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Pourquoi le serpent parle-t-il à la femme? Rappelons-nous ce qui se passe au chapitre 2. C'est à l'homme que Dieu a donné des instructions concernant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse 2, versets 16 et 17. L'Éternel Dieu ordonna à l'homme: mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est aussi pour l'homme que Dieu a façonné la femme. C'est ce que Paul rappelle aux Corinthiens lorsqu'il dit: ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. 1 Corinthiens 11, 8. C'est encore l'homme qui porte la responsabilité du couple. Et c'est pourquoi, nous le verrons un peu plus tard, Dieu va s'adresser à l'homme pour lui demander: où es-tu? Et puis au verset 9, et puis au verset 11, aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? C'est pas à la femme que Dieu vient demander des comptes, c'est à l'homme. Le serpent, lui, renverse l'ordre que Dieu a établi entre l'homme et la femme. Et c'est à la femme qu'il s'adresse, et c'est elle qu'il fait parler au nom du couple. Dieu vous a dit, verset 1. Vous comprenez pourquoi l'auteur nous dit que ce personnage est tordu? Le serpent est manifestement au courant de l'ordre dans lequel Dieu a fait les choses, mais il en prend le contre-pied. Il renverse l'ordre que Dieu a établi pour instaurer son ordre à lui. Qu'est-ce que le serpent dit à la femme? Vraiment, Dieu vous a dit. Vous entendez ce mot? Vraiment. Le premier mot que le serpent prononce, c'est un mot qui parle de vérité. C'est pas extraordinaire, ça? Dans le texte original en hébreu, il n'y a même pas de question. Souvent, nous traduisons en français par une question. Dieu demanda, le serpent demanda, Dieu a-t-il réellement dit? Mais en hébreu, la phrase n'est pas interrogative, elle est affirmative. Vraiment, c'est vrai quoi? Dieu a dit. Le serpent prétend affirmer la vérité. Le problème, c'est que cette vérité est déformée. Il n'y a même pas de dialogue d'ailleurs ici. On est dans une pure manipulation. Maintenant, écoutez bien ce qui se passe ici dans le texte biblique. C'est d'une importance capitale pour comprendre ce qu'on appelle la chute de l'homme et de la femme, que le diable a provoqué contre nous. Je relis encore le verset 1b. Vraiment, Dieu vous a dit, ne mangez du fruit d'aucun des arbres du jardin. Le serpent dit, ce qui est vrai, vraiment, c'est que vous n'avez pas le droit de manger. C'est Dieu qui l'a dit. Or, qu'est-ce que Dieu a dit à l'homme? On l'a relu tout à l'heure, verset 16. Dieu dit à l'homme, mange! Vas-y! Lâche-toi! Profite de la belle et bonne création que j'ai faite. Voilà ce que Dieu dit. Dieu autorise et même presse l'homme pour qu'il soit heureux en profitant pleinement de tout, sauf un arbre. Mais le serpent, que dit-il? De nouveau, il renverse l'ordre des choses. Il ajoute simplement ne pas, la négation en français. Hein? Vraiment, vous ne pouvez pas manger de tout. C'est un vrai problème. Le serpent fait en sorte que le seul arbre interdit devienne une énorme privation, qu'il devienne l'arbre qui cache la forêt de tous les plaisirs. Vous voyez, on est passé de allez-y, profitez de tout, sauf de cet arbre-là, ça c'est la version de Dieu, à mes pauvres chéris, qu'est-ce que c'est ce Dieu qui vous prive de tout? Eh bien, ce renversement déstabilise la femme. En tout cas, c'est comme ça que je comprends. Verset 2. La femme répondit au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas en manger et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. » L'opération de séduction du serpent commence à payer. Regardez. Premièrement, la femme entre, malgré elle peut-être, dans le jeu du serpent en répondant au nom du couple. « Nous !» Elle dit « nous !» Alors que c'est normalement la responsabilité de l'homme. Deuxièmement, elle parle de l'arbre qui est au milieu du jardin. Et c'est lequel? Quel est l'arbre qui est au milieu du jardin? L'arbre de la connaissance? L'arbre de vie? Vous voyez, nous-mêmes on confond les deux. C'est l'arbre de vie qui est au milieu du jardin. Chapitre 2, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable portant des fruits délicieux, et il y mit l'arbre de la vie au milieu du jardin. La femme semble confondre les deux arbres. Comment est-ce possible? J'en déduis qu'elle commence à perdre ses repères. Un peu comme ces personnes, vous l'avez peut-être expérimenté vous-même, qui prennent conscience, mais après coup, trop tard, qu'elles se sont fait manipuler. Ce genre d'instant de perplexité, on sent que quelque chose ne va pas, mais on n'arrive pas à réfléchir, à mettre des mots sur ce qui cloche. Notre pensée est comme sidérée, arrêtée. Et puis quand on réalise ce qui s'est passé, c'est comme si on se réveillait d'un mauvais rêve. Or, Dieu n'a jamais interdit à l'homme l'arbre de vie qui est au milieu du jardin. Oui, Dieu va en barrer l'accès à la fin du chapitre 3, on le verra. Mais cela ne veut pas dire que l'homme ne pouvait pas en profiter avant la chute. Un seul arbre était interdit à la consommation, celui de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, Dieu dit à l'homme qu'il ne peut pas décider lui-même ce qui est bien et ce qui est mal. Ça appartient à Dieu. C'est ça que représente cet arbre du choix de la connaissance du bien et du mal. Or, cet arbre n'est pas au milieu du jardin, c'est l'arbre de vie. Troisièmement, la femme dit aussi, Dieu a dit de ne pas y toucher. Mais d'où sort-elle ce commandement? Dieu n'a jamais dit cela. Il dit, de cet arbre, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Chapitre 2, verset 17. Qu'est-ce que c'est cette histoire de ne pas toucher? Cela ne vient pas de Dieu. Je pense donc que la femme est troublée par l'expérience qu'elle est en train de vivre. Le mal commence à perturber son raisonnement, ses émotions et même sa mémoire. Alors le serpent ne la laisse pas se récupérer, il enchaîne les coups. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, « Mais pas du tout, vous ne mourrez pas !» Là, c'est l'arme par excellence des pervers, le démenti. Dieu a dit ça ? Mais non, pas du tout ! Le serpent vient saper ce qui reste des fondements de la parole de Dieu en niant cette parole. Mais non, Dieu n'a pas dit ça. Alors que Dieu l'a dit. Là où Dieu disait oui, vas-y, mange. Le serpent dit non, Dieu vous a trompé. Le serpent fait passer Dieu pour un menteur. Alors là encore, le mensonge du serpent se nourrit de la vérité. L'homme et la femme ne vont pas mourir instantanément après leur désobéissance. Mais la suite du récit nous montrera que leur désobéissance a bel et bien amené la mort dans notre humanité. C'est le serpent qui est menteur ici, pas Dieu. Deuxième poison, donc, le serpent et son mensonge. Il joue sur la corde de la vérité pour semer le doute, mais c'est pour nous amener à gober ses mensonges. Il nie la parole de Dieu en la faisant passer pour un mensonge, alors que c'est lui le menteur. Eh bien, chaque fois que nous nions Dieu ou sa parole, que nous voyons en Dieu un menteur, ou que nous pratiquons nous-mêmes le mensonge, nous apportons la preuve que notre test au poison du mensonge est positif. Mais il y a un vaccin, un contrepoison, c'est la vérité de Jésus. Jésus a tracé un chemin nouveau. Lui, il a parfaitement résisté au mensonge. Il dit toujours la vérité. C'est ce que constatait ce spécialiste de la loi dans le texte de Marc 12 que nous avons prêché il y a 2 semaines. Maître, tu dis la vérité, il constatait. Jésus disait et enseignait toujours la vérité. Mais il y a plus. Jésus n'est pas seulement quelqu'un qui dit toujours la vérité et qui ne ment pas, ce qui est déjà extraordinaire pour nous qui sommes menteurs. Jésus est aussi lui-même la vérité. Jean 14, verset 6, Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut venir au Père sans passer par moi. Vous voyez, Jésus lui-même, en personne, recrée ce pont vers Dieu que le serpent avait détruit par son mensonge. Ailleurs, l'apôtre Jean dit que le diable est le père du mensonge. C'est le père de notre monde. Notre monde n'a plus de repères concernant la vérité. Notre monde a avalé le mensonge qui consiste à croire que toutes les vérités se valent et donc s'annulent réciproquement. Tu as ton opinion, j'ai la mienne, chacun sa vérité. Eh bien ça, c'est un des grands mensonges de notre époque. Et face à ce mensonge, Jésus affirme qu'il est la vérité. En êtes-vous convaincu? Et êtes-vous prêt, prête à le proclamer de nouveau cette semaine autour de vous? Ça ne plaît pas à tout le monde. Mais c'est le seul antidote efficace contre le mensonge du serpent. Jésus lui-même pour reconstruire notre relation avec Dieu. Troisième et dernier poison, le serpent et sa méfiance. En plus de faire passer Dieu pour un menteur, le serpent le fait passer pour un égoïste, un méchant privateur qui se garderait pour lui-même tous les privilèges. Verset 5. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, comme des dieux, choisissant vous-même ce qui est bien et ce qui est mal. Encore une fois, il y a une part de vrai là-dedans. Les yeux de notre humanité se sont bel et bien ouverts sur une nouvelle réalité, mais c'est celle du mal, qui consiste à définir soi-même les critères de sa propre vie sans Dieu. Mais à quel prix? Le serpent ne dit qu'une partie de la vérité. En réalité, l'homme et la femme ne pourront pas devenir des dieux. Ils resteront humains. Et c'est pourquoi, dans les prochains versets, ils vont aller se cacher, parce qu'ils seront déçus du résultat. Les promesses du serpent ne vont pas se réaliser. Ils ont été trompés. Le serpent leur fait croire qu'ils pourraient s'affranchir de leur humanité pour être comme Dieu. Mais c'est contraire à leur vocation d'image de Dieu. Nous sommes l'image de Dieu, pas l'original. C'est impossible. Nous ne pourrons jamais être des dieux. Malheureusement, la stratégie du serpent a payé, verset 6. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, il en mangea. Tiens, il était là, lui. On reparlera du silence d'Adam. Hein. Le serpent a réussi à briser la confiance toute simple que l'homme et la femme avaient en Dieu leur créateur. Il a réussi à transformer cette confiance en méfiance. Alors que leur cœur inclinait jusque-là uniquement vers le bien, c'est-à-dire vers ce que Dieu disait, et bien maintenant leur cœur va incliner vers un autre désir. Et si finalement Dieu n'était pas aussi bon et juste qu'il le prétend? S'il nous cachait en fait la vérité pour nous maintenir dans l'ignorance et se réserver les privilèges de la connaissance divine. Troisième poison, le serpent et sa méfiance. Le serpent nous a suggéré que Dieu n'était pas digne de confiance et nous y croyons encore aujourd'hui. Quand nous disons ou quand quelqu'un nous dit « Si Dieu existait ou si Dieu était si bon que ça, il n'y aurait pas tant de souffrance dans le monde. » Eh bien, nous utilisons la même logique que le serpent. Nous mettons en doute l'existence ou la bonté de Dieu. Nous ne voulons pas d'un Dieu qui ne colle pas avec nos critères divins. Et en plus, ce que nous ne disons pas, mais qui est inclus, hein, que ce genre de propos implique, c'est « si moi j'étais Dieu, je ferais les choses différemment, bien mieux. » Selon mes critères de ce qui est bien et mal. Et voilà, c'est aussi simple que ça de basculer dans la logique du serpent. Toutes les fois où nous sommes en colère contre Dieu, ou déçus de ce que nous pensons qu'il devrait faire pour nous ou pour notre monde, à chaque fois que la méfiance vient remplacer la confiance dans notre cœur, nous nous prenons pour des dieux. Nous nous rangeons à l'opinion du serpent. Mais il y a un vaccin. Un vaccin contre cette méfiance vis-à-vis de Dieu qui nous colle à la peau depuis Genèse 3. Et là encore, c'est Jésus qui nous l'apporte. Jésus reprend d'ailleurs exactement le même discours que Caïn dans le livre de la jungle. « Ayez confiance, croyez en moi. » Jean 14, verset 1, je ne l'ai pas inventé. Pour retrouver confiance en Dieu, il nous faut faire confiance à Jésus. Aujourd'hui encore, le diable essaye par tous les moyens de nous faire croire que Dieu n'est pas fiable et qu'il nous faut plutôt l'écouter lui, le serpent. Ne nous laissons plus empoisonner. Si nous sommes chrétiens, nous avons déjà reçu l'antidote. Vivons donc cette semaine selon la vie nouvelle que cet antidote nous garantit. Lorsque le doute nous assaille concernant l'existence de Dieu, sa bonté, sa justice, sa sainteté, sa souveraineté, brandissons cette parole de Jésus qui dit « Ayez confiance en Dieu, ayez confiance en moi !» Jean 14, verset 1. Dieu veut établir une confiance nouvelle entre nous et lui, à la place de la méfiance qui ronge nos cœurs et qui nous sépare de lui. Saisissons ou ressaisissons à nouveau cette main qu'il nous tend aujourd'hui dans sa grâce. Vous voyez, Dieu ne nous explique pas pourquoi le mal est là. Cela reste pour nous un mystère parce que nous ne sommes pas dans la confidence des dieux. Par contre, Dieu nous explique comment le mal est entré dans notre humanité. C'est ce que nous avons vu ce matin. C'est parce que l'homme et la femme ont préféré écouter la voix du serpent et se méfier de Dieu plutôt que de continuer à lui faire entièrement confiance. Notre monde prône la méfiance comme une vertu. Au contraire, Dieu veut nous guérir du poison de la méfiance pour trouver ou retrouver confiance en lui. Dieu ne nous donne pas l'explication de l'origine du mal, mais Dieu nous donne la solution au mal en la personne de son propre fils. Et c'est ce que nous continuerons à voir dans la suite de cette série. Je vous invite à prier. Seigneur, tu vois comment notre monde est prisonnier de ce triple poison, l'orgueil, la méfiance. J'oublie mes trois points. Et le mensonge. Merci parce que Jésus est venu nous apporter en sa personne l'antidote que nous ne pouvions pas produire nous-mêmes. Seigneur, pour ceux d'entre nous ici ce matin qui n'ont pas encore saisi ce remède, je te prie que tu les aides à le prendre ce matin, à se tourner vers Jésus pour être délivrés de ce poison qu'est le péché. Et pour nous à qui, dans ta grâce, tu as accordé cet antidote, nous voulons une nouvelle fois te bénir, te remercier et te demander à vivre grâce à ce poison d'une manière qui donne envie à d'autres de recevoir à leur tour cet antidote. Seigneur, aide-nous tout au long de cette semaine à diffuser autour de nous le parfum de cet antidote, de cette bonne nouvelle de l'Évangile qui est venue jusqu'à nous. Amen.